Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. L'insécurité est montée d'un cran à Mbandaka. Un motard d'une vingtaine d'années a été tué par balle hier soir par ses deux clients qu'il transportait. Indignés par ce drame, les habitants de la ville de Mbandaka mettent les autorités devant leurs responsabilités. Au Nord Kivu, les journalistes de Beni observent deux journées sans radio dans la commune d'Oicha. Ils veulent ainsi protester contre le vol des équipements destinés à la radio évangélique de la zone. Notre invitée, c'est la coordonnatrice des anciens boursiers de l'ambassade américaine en RDC. Kerry Biamungu affirme que des nouvelles bourses sont mises à la disposition de jeunes et d'autres scientifiques congolais pour des formations aux États-Unis. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Dieudonné Nyangasa. Montée de l'insécurité à Mbandaka. Un motard d'environ 23 ans a été tué par balle hier soir par ses deux clients qu'il transportait. Selon les témoins, le drame a eu lieu dans un coin obscur devant l'église protestante de la ville. Après leur forfait, ces bandits armés ont emporté la moto de l'infortuné. Indignés par ce drame, les habitants de la ville de Mbandaka demandent aux autorités de multiplier les patrouilles de la police nationale et de placer des lampadaires pour décourager ce genre d'opérations criminelles. En Ituri, pendant ces temps, 5 présumés rebelles ougandais de l'EDF ont été arrêtés cette semaine vers Boga, localité située à environ 100 km au sud de la ville de Bunia. Ils ont été présentés hier au gouverneur. Le porte-parole des FARDC parle des malfrats qui sont des mèches avec le M23 pour qui ils s'occupent du recrutement, du ravitaillement en armes, en vivres et en médicaments. Reportage à Bunia d'Isaac Remoyopé.
Ces présumés ADF ont été appréhendés pendant les opérations militaires au Sidi Romo dans les localités de Boga, Tchabi, Malibongo et Bsio, précise le porte-parole de l'armée. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que les services de renseignement suivaient leur piste depuis quelques jours avant de les arrêter. Ils sont en collaboration avec différentes couches de la population, notamment à Chomia, Bogoro et Tchabi. Ces dernières leur facilitent le recrutement de jeunes dans les groupes armés ADF, l'approvisionnement en armes, en vivres et en médicaments. Certains parmi eux ont des liaisons même avec l'M23 en Nord Kivu, affirme le lieutenant Gilles Ngongo.
Une grande antenne qui s'est installée au niveau de Boga, qui est constituée de recruteurs des ADEF. Il y a aussi des ravitailleurs, des vivres, des médicaments. Olivier est allé jusqu'au niveau des Bunaganda. Ça montre clairement que cette antenne travaille en connivence avec l'M23 au Nord Kivu.
De son côté, le gouverneur de province a lancé un appel aux jeunes de ne pas se laisser manipuler pour déstabiliser la province. Le général Johnny Luboya exhorte tous les miliciens des groupes armés actifs à Ituri de revenir au bon sens pour contribuer à la reconstruction de leur milieu.
Et je demande à la jeunesse, que ce soit aux jeunes de Codeco, FPIC, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères. Rentrez dans vos activités.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis au Nord Kivu, le site de déplacés de Roissy 2, d'une capacité d'accueil de 20 000 personnes, a été mis en place par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et ses partenaires. Et cela pour héberger des déplacés internes congolais et ceux qui reviennent de l'Ouganda. Aménagé depuis le mois d'août dernier, ce site accueille plus de 15 000 personnes, dont 90% des retournés d'Ouganda. D'autres précisions viennent de Radio Kapigoma.
D'après le HCR, plus de 15 000 personnes sont arrivées dans les sites de Roissa 2 alors qu'elles continuent à chercher la sécurité et un abri après avoir fui la violence à travers certains milieux du territoire de Rutshuru. Le chargé de communication du HCR Goma indique que les fournitures, l'abri ainsi que l'aide d'urgence ont été mises à la disposition par le HCR, la CNR, AIDES, les autorités locales et la coordination humanitaire afin de soulager la détresse de ces populations. Blaise Sanila revient sur les besoins de ces personnes ainsi que les défis rencontrés au cours de ces interventions humanitaires.
Les principaux besoins des personnes déplacées sont notamment les logements, la nourriture, les soins de santé, l'eau potable, les articles ménagers essentiels et surtout la protection et la sécurité. L'IHCR opère dans cette zone dans un contexte sécuritaire difficile, ainsi qu'à des déplacements massifs et cycliques et à des besoins de protection dans des endroits impactés par la violence.
Il ajoute que les contraintes budgétaires ne permettent pas aux humanitaires de répondre à tous les besoins des déplacés. Malgré cela, le HCR réaffirme son engagement à rester sur place et à fournir une assistance vitale dans cette grave crise humanitaire au Nord-Kivu.
Nord-Kivu encore, les journalistes observent deux journées sans radio à dater de ce samedi dans la commune d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Ils ont pris cette décision hier, vendredi après-midi, pour protester ainsi contre le vol du matériel de la radio évangélique de Butembo Oicha. Le rapporteur intérimaire de la corporation demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour retrouver ce matériel. Jacques Kambale Bambara est au micro de Guylaine Kassassia.
Le constat est que malgré l'ultimatum qu'on a accordé aux autorités politico-administratives et sécuritaires pour que les biens et matériels volés dans cette radio soient retrouvés et remis à cet organe de presse, les journalistes ainsi que les médias de la commune d'Oicha sont désolés de constater que rien n'a jusqu'ici été fait par l'autorité compétente. C'est pourquoi nous pensons que ils continuent à mener des enquêtes et c'est ainsi que nous décidons de ce samedi matin de suspendre nos journaux dans nos radios différentes ici à commune de Oicha. L'état pour les autorités de continuer à mener des enquêtes pour que les biens volés soient retrouvés. Et si nous demandons à toutes les radios de la commune de ne pas produire des journaux et de faire des relais de radios partenaires. Et si nous demandons à tout le monde de garder son mal à patience parce que c'est une lutte qui vise à défendre l'intérêt de la communauté, surtout que la communauté a besoin et a droit à une information.
Les projecteurs sont également braqués sur le coup d'envoi à l'INPP Bukavu, l'Institut national de préparation professionnelle du cadre permanent du secteur des médias du Sud-Kivu. Cette activité est organisée par la division provinciale de la communication. Objectif affiché, contribuer à la redynamisation des médias dans cette province. À Bukavu, la correspondance de Rachel Kiesembangu.
Ce cadre permanent du secteur des médias jouera le rôle d'intermédiaire entre les médias et les services étatiques afin de débattre et mettre fin à toute mésentente dans ce secteur. C'est ce que dit Napoléon Kisala, chef de la division provinciale de la communication et médias au Sud-Kivu.
Il y a eu polémique autour des taxes entre la division de communication et médias et les médias. Mais avec le cadre qui a un caractère inclusif, ça va nous servir de débattre de toutes ces questions dans le secteur des médias. Et toutes les orientations seront aussi prises au sein du cadre permanent du secteur des médias.
Pour l'UNPC, ce cadre de concertation tombe à point nommé pour mettre fin au tiraillement avec la division de la communication. Le rapprochement de ces deux institutions en valait la peine. Darius Kitoka, président de l'UNPC Sud-Kivu.
Le média était objet de plusieurs tracasseries de la part des services étatiques. À un moment donné, nous avons pris la décision de nous mettre un peu à côté de la division, que l'on trouve un cadre pour lequel on peut se comprendre les uns les autres, pour que nous puissions chaque fois échanger.
Ceci a été organisé en partenariat avec les organisations intervenant dans les secteurs des médias au Sud-Kivu, Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Restons à Bukavu où les acteurs de la sécurité contre le trafic illicite de minerais ont achevé hier vendredi une formation sur une note de satisfaction. Ce recyclage de 5 jours était organisé par l'OIM grâce au financement du département d'État américain. Karumba Ursule de la police de protection de l'enfant reconnaît avoir enrichi à l'occasion ses connaissances. Elle s'est confiée à Jean Kassami.
Nous nous limitions tout simplement sur un seul article dans les pires formes du travail des enfants. Mais jusque-là, avec le détail qui nous a été fait par l'intervenant en cette matière, nous avons découvert qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons lorsque nous sommes en train de protéger nos enfants. Nous ne comptons que sur les enfants que nous voyons, mais sans pour autant se rendre compte qu'il faut que nous puissions aussi visiter les sites, voir si réellement il y a des enfants ou il n'y en a pas. Et là, nous avons été informés comment nous devons quand même nous comporter lorsque nous sommes devant de tels enfants, lorsque nous rencontrons des enfants ou lorsqu'on nous informe de la présence de ces enfants-là dans des sites miniers. Puisque les enfants sont exposés à beaucoup de problèmes dans des sites. Des fois, il y a des jeunes filles, même des jeunes garçons. et surtout les jeunes filles qui sont utilisées par ces gens-là. Vraiment, ça fait que les enfants ne font plus leurs études, sont devenus des enfants de la rue.
Revenons ici à Kinshasa où les artistes et musiciens congolais promettent d'accompagner la CENI dans l'organisation des élections de l'année prochaine par une campagne de sensibilisation de la population. Ils l'ont dit hier vendredi après un entretien avec le président de la CENI. Des précisions avec leur porte-parole, Josar Nyokalongo est interrogé par Jeff Ngoy.
Vraiment, c'est une première. Cela prouve de la considération que notre institution, la CENI, a pour nous, les artistes musiciens. La CENI nous a invités ici pour qu'on essaie d'échanger, pour que nous essayons de sensibiliser nos compatriotes pour les élections à venir, de l'enrôlement jusqu'aux élections. Et c'est ce que nous allons faire. Et la CENI nous considère et la CENI reconnaît à nous notre rôle pour sensibiliser à la population. Voilà, nous sommes très, très contents. Alors, avec les échanges que nous avons eus, c'est, je crois, comme le président l'a dit, c'est une première. Il y aura des rencontres qui vont suivre après pour qu'on essaie de tout planifier.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, la famille Joseph Désiré Mobutu Kambale plaide pour l'implication personnelle du président Félix Tshisekedi Tshilombo afin de l'aider à récupérer sa villa sur le boulevard du 30 juin ici à Kinshasa. Lors d'une conférence de presse animée ce samedi dans la capitale, Joseph Désiré Mobutu Kambale a affirmé qu'il détient tous les titres de propriété de cette villa acquise par sa défunte mère en 1979. Il s'étonne de constater que cette villa est plutôt attribuée au député national André Mbata par le ministre de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabilou. Joseph Désiré Mobutu Kambale le dit à Paul Matendo.
Dans notre propre pays, nous vivons comme des étrangers. C'est inacceptable. Raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État, personnellement, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Humblement, je viens m'adresser à vous pour solliciter votre implication personnelle. Le pays a déjà beaucoup de problèmes. Ça nécessite que nous soyons dans l'unité. C'est dans l'unité qu'on peut vaincre l'ennemi qui nous dérange du côté Est et à l'Ituri. Nous avons le devoir de soutenir notre armée, de vous soutenir comme commandant suprême. Pour mon cas, je suis dans mes droits. Les décisions exécutées ont été rendues en bonne et due forme. Je demande humblement que vous vous imprégniez de ce dossier pour pouvoir retourner dans mes droits. Que ma parcelle me soit restituée parce que cette parcelle-là n'appartient pas à l'État. Ça fait 43 ans aujourd'hui. Nous sommes en conflit, moi et M. Ibrahim. On ne sait pas depuis quand, sur base de quel élément. Et le ministère dirigé par le ministre Pius s'est appuyé pour pouvoir nous mettre dehors là où il y a un arrêt de la cour d'appel.
Joint par Radio Okapi aujourd'hui, le ministre Pius Mwabilou a préféré ne pas faire de commentaires. Le journal se poursuit au Kasaï-Oriental où plusieurs localités seront desservies en eau potable dans quelques mois grâce à l'entreprise Sterver Construct qui a gagné le marché auprès du gouvernement provincial. Ce vendredi, le directeur de cette entreprise a présenté au gouverneur intérimaire l'usine de forage qui sera installée dans les milieux ruraux et périurbains. Radio Kapimbujimai, Esther Ndalafina.
Au cours de la cérémonie de présentation de cette usine de forage, Eliel Kasenga, directeur de l'entreprise Stever Construct, qui a gagné le marché auprès du gouvernement provincial, a indiqué que les travaux de forage ainsi que de l'installation complète de l'infrastructure prendront 21 jours.
Généralement, ça nous prend du forage jusqu'à la dernière vis installée, 21 jours. Le forage a une certaine durée, le génie civil autour a une certaine durée et l'installation elle-même a une durée. Nous avons une structure métallique, d'accord. Nous avons ensuite un réservoir, des panneaux solaires et une série de lampadaires pour éclairer le même la nuit et 6 robinets de part et d'autre pour alimenter la population.
Le ministre provincial des Travaux publics et Infrastructures a indiqué que les travaux commencent dès le début de la semaine prochaine.
Vous savez que l'accès à l'eau potable retient l'autorité suprême de ce pays et c'est dans ce cadre-là que la société Sterver Construct a signé un contrat pour accompagner les projets d'accès à l'eau potable en milieu rural. Ici, c'est tous les équipements qui sont arrivés pour commencer ces travaux dès la semaine prochaine. Il y a une étude préliminaire qui a déjà été faite sur certains sites.
Signalons que la ville de Mbujimayi pourrait bénéficier de 5 forages. Les sites seront autonomes, c'est-à-dire ils seront alimentés par l'énergie solaire. Esther Nalafina, Radio Okapi.
l'actualité internationale.
Fin du suspense au Sénégal. Amadou Ba, 61 ans, a été nommé Premier ministre ce samedi. Il est ancien ministre de l'économie nationale et des finances et ancien ministre des affaires étrangères. La composition du tout nouveau gouvernement sénégalais est encore attendue. La nouvelle a été annoncée sur la radio-télévision publique en édition spéciale. 14 morts, c'est le bilan de l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans la capitale jordanienne ce samedi. Le porte-parole de la sécurité publique affirme que les opérations de recherche se sont terminées. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est entretenu hier vendredi après-midi avec son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Les discussions entre les deux chefs d'État ont porté sur le partenariat entre les deux pays. Mais il y a eu aussi quelques frictions autour de l'action russe sur le continent africain.
L'invité.
Notre invité, c'est la coordonnatrice des anciens boursiers de l'ambassade américaine en RDC. Kerry Biamungu affirme que cette ambassade américaine met à la disposition des jeunes et des scientifiques congolais de bourses pour des formations aux États-Unis. Elle est interrogée par Jean Gandou.
Kerry Biamungu, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
Quels sont les différents types de bourses que vous proposez aux Congolais?
Le département d'État américain, entre autres l'ambassade des États-Unis, propose des bourses comme le programme Fulbright for Foreign Students, Fulbright Scholar, Humphrey et le programme Mandela Washington Fellowship, au fait sous l'initiative YALI, The Young African Leaders Initiative. Donc, nos quatre programmes d'échange sont des programmes totalement sponsorisés par l'ambassade et donc nos participants, en fait, ne payent rien pour y participer du début jusqu'à la fin du programme.
Qui peuvent y accéder?
On a quatre programmes d'échange et donc chaque programme a une spécificité et donc, en général, il faut être premièrement congolais pour participer au programme Mandela Washington Fellowship. Il faut être un jeune âgé de 25 à 35 ans et pour participer au programme Fulbright, il faut juste avoir un diplôme de licence parce que le programme Fulbright for Foreign Students vous donne l'opportunité d'aller poursuivre un master aux États-Unis. Et pour participer au programme Humphrey, il faut juste avoir aussi un niveau de licence avec au moins 5 ans d'expérience professionnelle. C'est un programme qui vous offre une année de recherche dans des universités américaine, mais aussi le programme Fulbright Scholar. On cherche des personnes évoluant dans le monde académique avec au moins 2 ans d'expérience en tant que professeur assistant au CT. Et là, ils ont l'opportunité d'aller poursuivre aussi leur recherche académique en fait, et publier des articles dans différentes universités américaines. Et parfois, les candidats sont accompagnés par leur famille, surtout pour le programme Fulbright for Foreign Students, parce qu'on s'est dit 2 ans, c'est quand même trop. Dans ces cas-là, c'est le candidat seul qui prend en charge le déplacement de sa famille et leur séjour aux États-Unis. Pour le candidat, on prend tout en charge, ça veut dire son déplacement, le processus de visa, son séjour, on paye les frais académiques, on paye tout ce qui est relatif au cours, ce qui est l'achat des livres, des trucs. On donne la restauration, on loge les candidats. Voilà, un peu de perdien pour survivre.
Une fois les études terminées, les candidats peuvent-ils rester sur place ou indubitablement rentrer au pays?
On encourage nos candidats à rentrer dans le pays parce qu'on leur accorde le visa de type J1. En fait, c'est un visa qu'on offre pour tous nos programmes d'échange et qui oblige aux candidats de rentrer dans le pays et y faire au moins 2 ans avant de repostuler pour un type de visa immigrant. On suppose que durant les 2 ans que vous aurez fait dans le pays, vous aurez déjà transmis ou bien implémenté tout ce dont vous avez appris à l'étranger et cela serait bénéfique pour votre communauté.
Qu'adviendra-t-il pour le candidat qui, une fois sur le sol américain, trouverait une belle opportunité qui l'exigerait peut-être à rester sur place?
Les candidats sont toujours obligés en fait, de communiquer avec nous. Et avant leur départ, on leur prépare que voilà le type de visa que vous allez obtenir, c'est les J1 et qui vous oblige de rentrer au pays. Alors, s'il arrive un moment où le candidat est parti et il a trouvé une belle opportunité pour rester, et bon, il doit signaler parce que S'il reste sans nous dire, ça veut dire qu'il a échappé et on doit faire tout pour le retrouver et ça sera pas bon pour lui. Et donc, on encourage le candidat de communiquer avec nous de toutes sortes d'opportunités qu'il a trouvées et c'est au département d'État, au fait, de juger si c'est important pour le candidat de rester ou de rentrer au pays.
Enfin, comment accéder à cette inscription? La périodicité, c'est laquelle?
Actuellement, le programme Fulbright Fellowship, dont les applications sont déjà disponibles, donc les gens peuvent visiter facilement les sites de l'ambassade des États-Unis, usembassy.gov, et là ils vont facilement trouver les liens pour postuler directement à ces programmes qui exigent premièrement être congolais et avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle. Malheureusement, le programme Mandela Washington Fellowship a clôturé hier à minuit et avec ce programme, on n'exige pas un diplôme académique, donc toute personne qui parle anglais et qui fait déjà la différence dans la communauté peut postuler à ces programmes d'échange.
Kéré Biamongo, je vous remercie.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, la coordonnatrice des anciens boursiers de l'ambassade américaine à RDC, Madame Kéré Biamongo, interrogée à Lubumbashi par Jean Gandou. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Pierrot Elamegi et Noël Aluzi Tukabambi qui m'ont accompagné.